France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Franz Kafka semble toujours se situer à la croisée des mondes, entre le réel et le fantastique, dans cette écriture dont la simplicité froide permet à un merveilleux inquiétant et inédit d'émerger, pour investir de sens un récit ou un roman. Entre les langues également. Il ne parle que mal le tchèque, maniant l'allemand, certes avec une noblesse inégalée et admirée de tous, mais avec cette culpabilité continue de s'exprimer dans une langue volée, qui ne lui appartient pas en propre. Finalement, entre les cultures, il appartient à une famille juive qui adhère à la langue allemande et à la culture qui l'entoure, et qui fait tout pour être assimilée, et pourtant rejetée, voire discriminée. Le jeune Kafka se passionnera pour le théâtre yiddish, comme pour donner un sens véritable au simulacre de vie juive que s'impose sa famille, dans un syncrétisme qui causera chez Kafka ce que certains appellent une crise identitaire. Dans ce deuxième de 9 épisodes d'une journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, c'est justement de cette complexe hybridité de l'œuvre et de la culture de Franz Kafka que s'entretiennent Louis-René Desforêts, Jean-Michel Rey, Denise Calperine, Bernard Noël, David Flusser et Jacques Derrida. Kafka, une identité en question, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Alors, journal, page 470. Prends-moi dans tes bras, c'est l'abîme, accueille-moi dans l'abîme. Si tu refuses maintenant, fais-le plus tard. Prends-moi, prends-moi, tissu de folie et de douleur. Conversation avec Kafka de Gustave Janouch. En mai 1921, j'écrivis un sonnet que Ludwig Winder publia dans le supplément dominical de Bohémia. Kafka me dit à cette occasion : Vous décrivez le poète comme un être d'une stature prodigieuse dont les pieds se trouvent sur la terre tandis que sa tête disparaît dans les nuages. C'est tout naturellement une image tout à fait habituelle dans le cadre des représentations conventionnelles de la petite bourgeoisie. C'est une illusion qui est issue de désirs cachés et qui n'a rien à voir avec la réalité. Le poète est en réalité toujours beaucoup plus petit et plus faible que la moyenne de la société. C'est pourquoi il éprouve la pesanteur de l'existence terrestre beaucoup plus intensément et fortement que les autres hommes. Chanter n'est pour lui personnellement qu'une façon de crier. L'art est pour l'artiste une souffrance par laquelle il se libère pour une nouvelle souffrance. Il n'est pas un géant, mais un oiseau plus ou moins multicolore dans la cage de son existence. Vous aussi, demandai-je. Je suis un oiseau tout à fait impossible, dit Franz Kafka. Je suis un chouka, un kavka. Le charbonnier du Tainhof en a un, vous l'avez vu ? Oui, il court devant sa boutique. Oui, mon parent a plus de chance que moi. Il est vrai qu'on lui a rogné les ailes. Dans mon cas, en revanche, cela n'a même pas été nécessaire, car mes ailes se sont atrophiées. C'est la raison pour laquelle il n'existe pour moi ni hauteur, ni lointain. Désemparé, je vais sautillant parmi les hommes. Il me considère avec une grande méfiance, car enfin je suis un oiseau dangereux, un chapardeur, un chouka. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, je n'ai aucun sens des choses qui brillent. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas de plumes noires et brillantes. Je suis gris comme cendre, un chouka qui rêve de disparaître entre les pierres. Mais ce n'est qu'une plaisanterie comme ça, pour que vous ne remarquiez pas comme je vais mal aujourd'hui.
Thank you. Kafka a un nom qui est un nom commun en tchèque, Kafka, voulant dire le chouka.
Jean-Michel Rey.
Or, il se trouve que toute une partie de l'œuvre de Kafka tourne autour de ce nom propre, c'est-à-dire autour de cet oiseau qui, en outre, se trouvait être l'emblème de la firme du père de Kafka, Hermann Kafka. Or, il me semble que dans le journal, on trouve un certain nombre d'indications, de notes concernant cette dimension du nom propre, et que une des dimensions peut-être de l'écriture de Kafka, ça serait la reprise, le déploiement à la fois des lettres de ce nom, des syllabes de ce nom, et puis de toute une série de représentations, d'images qui sont afférentes à ce nom.
Le père de Kafka a transformé le V en F.
Oui, alors il y a effectivement cette transformation qui est quelque chose de très, très singulier. C'est-à-dire que on pourrait essayer de décomposer les différents composants de ce nom, enfin, et notamment rapprocher ce nom de Samsa, le héros de la métamorphose, en montrant que le nom de ce personnage est exactement calqué sur celui de Kafka. Et puis suivre à la trace, à la fois dans les noms des personnages, dans la question de la signature, dans la question de la sonorité, dans la question de la place de l'oiseau chez Kafka, dans les apparentements aussi. C'est-à-dire, il est question à la fois du chouka, mais aussi de la corneille, du corbeau, etc., qui sont des animaux de la même espèce. Donc je crois qu'il y a une sorte de noyau tout à fait fondamental de ce texte, qui peut, non pas se réduire à ce nom, mais dont le nom peut permettre une première approche. Et que on trouve bon nombre d'indications dans le journal qui vont dans ce sens-là. Et au-delà, on peut dire que le personnage de K, lui aussi, son nom, ou ce nom réduit à une seule lettre, enfin, entrerait dans cette sorte de décomposition, de recomposition constante du nom, dont l'œuvre de Kafka me semble tout à fait marquée de manière très significative, outre évidemment toute la question du nom dans le Jubilov central, c'est-à-dire le nom comme un héritage impossible, hein, et puis le nom comme étant marqué par une langue profondément étrangère. Enfin, on sait que l'allemand n'est pas la langue maternelle de Kafka, et qu'on peut justement voir comment le tchèque a pu transiter dans son écriture, entrer dans son écriture, notamment par la dispersion des syllabes qui forment le Kafka.
Il a tout à fait écarté son nom hébreu, Hanschel.
Oui, il a tout à fait écarté. Il y a un mot allemand très proche de celui-là qui veut dire merle. Enfin, alors, je crois que si on déployait justement le sens commun du mot Kafka en tchèque, c'est-à-dire cet oiseau qui est un chouka, indépendamment de la référence au père, eh bien qu'on trouverait toute une série un ensemble de textes qui viennent en quelque sorte éparpiller ça, le disperser et en même temps le montrer. C'est-à-dire tous ces textes du journal qui m'ont toujours frappé personnellement, dans lesquels il est question des ruines. Il est question des ruines, il est question des oiseaux qui tournent autour de ça, il est question du vol, il est question de toute une série de motifs.
De bruit d'ailes.
De bruit d'ailes, bien sûr, dans lesquels la représentation de l'oiseau, du vol de l'oiseau, etc., viennent interférer constamment avec, on peut dire avec des histoires, enfin.
Thank you. La situation en Allemagne, pour des raisons historiques, est très beaucoup plus ancienne que la situation en France, mais qu'à un moment donné, il y a cette situation de la double culture, si vous voulez, et qui va produire un déchirement au niveau de la langue, même quand la langue est la seule que l'on possède, comme c'était le cas de Kafka.
Tel Aviv, Denise Calperine.
Bon, comme nous le savons, il avait appris le tchèque, il le savait mal, et sa seule langue, en fin de compte, était l'allemand, il n'en avait pas d'autre. Alors, que nous disait Kafka, cette langue, et il va beaucoup plus loin, parce que lui, il généralise à toute la jeune littérature, enfin la jeune littérature pour son époque, j'entends, juive allemande, ou juive pragoise, plus exactement. Il dit, elle est fausse. Elle est fausse parce que elle n'a qu'un seul moyen d'expression, qui est la langue allemande. Elle se réclame de la tradition littéraire allemande, et elle est comme quelqu'un qui aurait volé l'enfant au berceau. La langue allemande est une langue volée, elle ne lui appartient pas en propre. Alors bon, pour Kafka, ça devient toute une sorte de construction vécue d'ailleurs. C'est le malaise vis-à-vis des parents. Les parents qui, eux, parlaient mal l'allemand, et qui, d'un autre côté, voulaient germaniser à tout prix leurs enfants, et à toute vitesse. Le plus vite serait le mieux. Bon, ça, c'est un phénomène que nous connaissons très bien de toutes les communautés juives dans la diaspora. Quand j'entends, après l'émancipation, dans tous les pays où la culture juive s'est trouvée, ils s'identifient toujours à la culture dite supérieure. Alors, vous avez eu le même phénomène, d'ailleurs, avec les juifs en Afrique du Nord. Dans la mesure du possible, faire avancer leurs enfants, c'était s'identifier à la culture supérieure. Ce n'était pas simplement une question d'arrivisme pour que les enfants puissent, bon, avoir une meilleure vie. C'était véritablement le sentiment que la culture occidentale est celle qui est la culture rayonnante, la vraie culture, dans la mesure où il y a une culture qui est véritablement créatrice. Alors, les Juifs d'Afrique du Nord s'identifiaient nécessairement à la culture française, c'est normal. Sinon, il restait, si vous voulez, dans le ghetto. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Juifs des pays germaniques, ou les Juifs qui arrivent des pays de l'Est? C'est la gravitation vers la culture allemande, qui est évidemment, à cette époque-là, la première culture occidentale qu'ils rencontrent, et qui, en effet, est une culture rayonnante. Où est le foyer? Le foyer n'est pas à Vienne, il est à Berlin. Bon, nous savons bien que quand Kafka rêvait de quitter Prague, parce que la vie était pour lui intenable, pour des raisons affectives. Bon, c'était vers Berlin qu'on allait se diriger.
Quant au rôle ou à la fonction des personnages chez Kafka, je crois que c'est une toute autre affaire et que j'ai l'impression, en tout cas, que nous balbutions complètement pour essayer d'en dire quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait désarmés devant cet usage multiplié du nom, cet usage des lettres, enfin, et qu'il y a au fond une sorte de caractère tout à fait déconcertant, à la fois de cet usage du nom, et puis je dirais de cet usage au fond de l'allemand. Enfin, je crois que là, il y a quelque chose de très fondamental que les Allemands ne perçoivent peut-être pas forcément mieux que des étrangers, et qui, à mon sens, rejoint aussi, par un tout autre biais, l'usage ironique, en quelque sorte, que Freud peut faire de l'allemand. Enfin, donc là, il me semble aussi que l'œuvre de Kafka, ce qui nous est donné à lire, c'est au fond la nécessité d'apprendre ou de réapprendre entièrement cette langue. Enfin. Et qu'une des choses qui m'a toujours le plus frappé chez Kafka, c'est ce tout petit texte qui est le discours sur la langue yiddish. Enfin. C'est-à-dire ce discours que Kafka fait en 1912, je crois, pour introduire à une soirée poétique où on devait lire des poèmes en yiddish. Ce discours s'adressant au public allemand, et Kafka disant aux Allemands, attention, ce que vous allez entendre sous la forme du yiddish, c'est très proche de la langue que vous parlez, que vous pratiquez, simplement, c'est quelque chose qui va vous faire peur, c'est quelque chose qui fait peur par la proximité même que ça entretient avec votre propre langue. Et Kafka finit en disant, mais surtout ne croyez pas que nous voulons vous punir de ça.
Kafka, dans la Kafka, il y a cette langue est d'une part parce que la situation pragoise est compliquée, parce que vous avez une communauté allemande à Prague, que vous avez une communauté tchèque, et que les juifs qui s'identifient à la langue allemande, à la culture allemande, parce qu'elle est la culture supérieure à l'époque, ne sont pas pour autant acceptés. Ils en sont exclus. Ils font comme si ils en faisaient partie, ils vont à l'école allemande, ils connaissent les classiques allemands mieux que leurs camarades allemands, mais n'empêche que ils sont, comme le dit fort bien Kafka, très conscients du fait que il y a là larcin quelque part, comme dit Kafka. Il y a possession illégitime. Ils sont sortis du ghetto. Ils ont donc, dans la mesure où ils ont quitté le ghetto d'Europe orientale, ils sont à demi assimilés. Et c'est cette demi-assimilation qui crée le problème. Être totalement assimilé ne pose pas de problème, parce que vous perdez totalement votre identité juive. Et vous vous identifiez à quelque chose d'autre, et vous vous fondez entièrement dans autre chose, et vous cessez d'être vous-même. Vous vous imitez totalement le modèle jusqu'à fusionner avec le modèle, dans la mesure où cela est possible. Mais dans le cas de Kafka, ce n'est pas cela. Ils sont tout un petit groupe, lui, Max Brod et tous ses amis, qui sont, si vous voulez, un nouveau petit ghetto qui s'est reformé, mais qui se prétend faisant partie intégrante de cette culture allemande. Et il est évident, jusqu'à l'âge de 30 ans, Kafka, finalement, masquera le problème. Il joue le jeu, il le joue bien. Sauf qu'il est gêné, par ses parents surtout. Il est gêné par cette famille qui n'est qu'à demi assimilée, qui parle très mal l'allemand, et qui veut lui imposer à la fois une espèce de simulacre de vie juive qui n'a plus de consistance, qui n'a plus de substance, parce qu'ils ont oublié ce que c'est réellement que la vie juive, et qui en même temps veut jouer le jeu de la famille intégrée à l'allemande, ce qu'elle n'est pas non plus. Et Kafka, passionné d'absolu comme il l'est, passionné de vérité, ne peut pas tolérer cette situation. D'où, évidemment, c'est un des éléments, je ne dis pas que c'est le seul, mais de cette hostilité de Kafka contre son père. Cette haine contre le père, et il le dit, c'est parce que tu veux m'imposer quelque chose de radicalement faux. Et ce qui explique aussi l'enthousiasme qu'a saisi Kafka quand il y a eu la visite du théâtre yiddish à Prague, ce théâtre yiddish qui venait de Pologne. Alors, on peut s'étonner de voir cet enthousiasme subi pour ce qui était, au niveau artistique, quelque chose de très médiocre. Ce n'était pas le grand théâtre yiddish, c'était comment dirais-je, pas une contrefaçon, mais un niveau de théâtre assez pauvre. Et alors, il s'enthousiasme, il devient l'ami de ce Levy qui dirige cette troupe de théâtre. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Kafka se dévoue à cette cause. Lui qui, jamais, qui en fait, ne pouvait pas réellement se dévouer à une cause, il était toujours beaucoup trop replié sur lui-même, plein de malaise, plein de contradictions, d'ambiguïté. Et il s'enthousiasme non seulement pour ces gens, et pourquoi est-ce qu'il s'enthousiasme pour eux? Parce qu'il dit que ce sont des juifs vrais. Et il n'en a jamais connu, il découvre. Il découvre quelque chose qui lui semble la vie juive en accord avec elle-même. C'est-à-dire une vie qui n'est pas truquée, une vie qui est fidèle à elle-même et qui ne prétend pas être autre chose. Il a tout le temps le sentiment que la vie qu'il mène est une vie, est une fausse vie. Alors, il va s'enthousiasmer pour la langue yiddish. Bon, il y a le célèbre discours qu'il fera, un texte admirable pour la défense du yiddish, dont il ne sait pas un mot. Il ne sait pas un mot de yiddish. Et qui est son auditoire? Les bourgeois juifs de Prague, qui sont, évidemment, qui méprisent souverainement le théâtre yiddish, toute cette culture qu'ils ont abandonnée d'Europe orientale et qu'ils ont oubliée, et qui se prétend déjà à demi-allemande, mais se prétend encore juive, ils vont tous écouter Kafka, y compris bon, les parents de Kafka. On a honte de lui qu'il ose enfin révérer quelque chose qui est aussi méprisable. Et alors il va jusqu'à dire, vous ne vous rendez pas compte, mais vous le savez, ce yiddish, c'est votre langue, c'est notre langue. D'une certaine façon, symboliquement, c'est véritablement la nôtre. Bon, plus tard, il se dirigera vers l'hébreu. Parce que ce qu'il cherche désespérément, c'est une langue qui soit, comment dirais-je, viscéralement la sienne. Alors, il va donc à la découverte de cette culture. Évidemment, il y aura immédiatement la déception. Cela va retomber à plat parce que, parce qu'il n'est ni d'un côté ni de l'autre, en fin de compte. Comme il dit, il est, ils ont les pattes collées. Ils veulent absolument s'agripper, les pattes de devant collées dans un domaine qui n'existe pas et les pattes de derrière encore engluées dans le ghetto qu'on a quitté. Alors, pour lui, ça va se résoudre, évidemment, dans, un, dans cette écriture neutre, cette écriture qui est dépouillée. Elle est dépouillée parce qu'il se sent littéralement coupable, coupable d'avoir volé cette langue allemande. Et il va se greffer sur cette façon d'envisager sa relation à la langue, va se greffer là-dessus aussi sa façon d'envisager sa vie personnelle, sa vie d'écrivain, sa vie de juif. Le tout ne fera plus qu'un seul. Alors, bon, on connaît son attitude vis-à-vis du mariage qui fait partie de la même chose. Alors, Kafka deviendra un solitaire absolu et cette langue deviendra l'expression radicale de cette solitude.
Si Kafka, c'est aussi celui qui écrit quelque chose comme son autobiographie, ou quelque chose de cet ordre-là, est-ce que ça n'est pas, comme un certain nombre d'autres, enfin, en raison d'une sorte de crime antérieur, en raison d'une sorte non pas tellement une culpabilité, comme on l'a dit et répété, sans faire avancer beaucoup les choses, mais plutôt quelque chose comme une action. Une action violente, une action destructrice, dont le nom le plus facile, ce serait le crime, enfin, qui antérieurement aurait eu lieu et dont, en quelque sorte, l'écriture viendrait reproduire, déployer tous les effets, ou les principaux effets. Enfin.
Vous avez dit tout à l'heure que Kafka n'habitait pas sa langue. Est-ce que vous croyez qu'il habite la vie ?
Une des choses qui traverse le journal, c'est précisément cette confusion, cette confusion que fait Kafka entre les histoires qu'il invente et ce qui devient sa propre histoire. Enfin, et je dirais même ce qui devient sa propre histoire du fait des histoires qu'il invente, enfin du fait des histoires qu'il est à même d'écrire. Et que l'une des choses aussi très très belles, très fortes, je crois, dans le journal, c'est quand Kafka dit « Je suis écrivain même quand je n'écris pas ». Enfin, c'est-à-dire cette sorte de conscience très aiguë de ce à quoi il est en quelque sorte voué, de ce qui le pousse, de ce qui le tient, même quand précisément cela n'a pas lieu. Enfin.
Mě snad chtěl prokázat. Já mám štěstí, protože tě takhle mohu snadněji a odhodlaněji požádat, abys mi prominul a omluvil mě u všech, jestliže zítra přijdu k Baumovi až kolem 9:00. Jsou u nás nějací příbuzní. Ostatně zaskočím k tobě na chvilku v pondělí v 5:00. Kdybych tě snad rušil v práci, zapři se. Tvůj Franc.
Que la question de la loi occupe une place qui est en même temps une place vide tout à fait essentielle dans la scène d'écriture de Kafka.
Rue d'Ulm, École normale supérieure, Jacques Derrida.
Si la loi occupe cette place vide, c'est aussi que l'interprétation de la loi, qui n'est pas moins importante que la loi, qui n'est pas secondaire par rapport à la loi, et aussi ce qui fait loi. Et l'hypothèse que la loi n'existe pas est une hypothèse sur la structure même de la loi, qui agit comme loi, peut-être, en tant qu'elle n'existe pas, en tant qu'elle n'existe pas d'une manière tout à fait singulière. Il me semble que Kafka s'est constamment expliqué sur un mode qui était quelquefois théorique, quelquefois celui de son écriture même, c'est expliqué avec cette étrange topique de la loi, cette atopique de la loi, cette folie de la loi qui a lieu en tant qu'elle est aussi insituable et qui agit depuis ce non-lieu, en quelque sorte. J'y ferai écho avec un texte qui s'appelle « Vor dem Gesetz »,« Devant la loi », qui est à la fois un fragment du procès, qui donc a sa place et sa fonction dans le chapitre 9 du procès, mais qui en même temps, détaché du procès, comme petit texte autonome en quelque sorte, ayant sa propre loi ou faisant sa propre loi, non seulement décrit ce mécanisme de la loi auquel vous référiez, mais fait la loi à son tour. Vous connaissez ce texte, il s'agit apparemment d'un récit assez bref, quelques lignes, qui décrit l'arrivée de l'homme de la campagne devant la loi.
Devant la loi.
Bernard Noël.
Devant la loi se dresse le gardien de la porte. Un homme de la campagne se présente et demande à entrer dans la loi. Mais le gardien dit que pour l'instant, il ne peut pas lui accorder l'entrée. L'homme réfléchit, puis demande s'il lui sera permis d'entrer plus tard. C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. Le gardien s'efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l'homme se baisse pour regarder à l'intérieur. Le gardien s'en aperçoit et rit. « Si cela t'attire tellement, dit-il, essaie donc d'entrer malgré ma défense. Mais retiens ceci, je suis puissant, et je ne suis que le dernier des gardiens. Devant chaque salle, il y a des gardiens de plus en plus puissants. Je ne puis même pas supporter l'aspect du troisième après moi. » L'homme de la campagne ne s'attendait pas à de telles difficultés. La loi ne doit-elle pas être accessible à tous et toujours? Mais comme il regarde maintenant de plus près le gardien dans son manteau de fourrure, avec son nez pointu, sa barbe de tartare longue et maigre et noire, il en arrive à préférer d'attendre jusqu'à ce qu'on lui accorde la permission d'entrer. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir auprès de la porte, un peu à l'écart. Là, il reste assis des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis à l'intérieur et fatigue le gardien de ses prières. Parfois, le gardien fait subir à l'homme de petits interrogatoires. Il le questionne sur sa patrie et sur beaucoup d'autres choses. Mais ce sont là questions posées avec indifférence à la manière des grands seigneurs. Et il finit par lui répéter qu'il ne peut pas encore le faire entrer. L'homme, qui s'était bien équipé pour le voyage, emploie tous les moyens, si coûteux soient-ils, afin de corrompre le gardien. Celui-ci accepte tout, c'est vrai, mais il ajoute « J'accepte seulement afin que tu sois bien persuadé que tu n'as rien omis. » Des années et des années durant, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres gardiens. Le premier lui semble être le seul obstacle. Les premières années, il maudit sa malchance sans égard et à haute voix. Plus tard, se faisant vieux, il se borne à grommeler entre les dents. Il tombe en enfance et comme, à force d'examiner le gardien, pendant des années, il a fini par connaître jusqu'aux puces de sa fourrure, il prie les puces de lui venir en aide et de changer l'humeur du gardien. Enfin, sa vue faiblit. Et il ne sait vraiment pas s'il fait plus sombre autour de lui ou si ses yeux le trompent. Mais il reconnaît bien maintenant dans l'obscurité une glorieuse lueur qui jaillit éternellement de la porte de la loi. À présent, il n'a plus longtemps à vivre. Avant sa mort, toutes les expériences de tant d'années accumulées dans sa tête vont aboutir à une question que jusqu'alors il n'a pas encore posée au gardien. Il lui fait signe parce qu'il ne peut plus redresser son corps roidi. Le gardien de la porte doit se pencher bien bas, car la différence de taille s'est modifiée à l'entier désavantage de l'homme de la campagne. « Que veux-tu donc savoir encore ?» demande le gardien. « Tu es insatiable. » « Si chacun aspire à la loi, dit l'homme, comment se fait-il que durant toutes ces années, personne autre que moi n'ait demandé à entrer ?» Le gardien de la porte, sentant venir la fin de l'homme, lui rugit à l'oreille pour mieux atteindre son tympan presque inerte. « Ici, nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant je m'en vais et je ferme la porte. »
Qu'est-ce qui fait loi aux yeux de Kafka? Quand vous dites, pour Kafka, la loi est vide, mais malgré tout, il se sert de la loi comme d'un stratagème, d'une manœuvre, et aussi d'un piège.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il s'en sert. La transcendance intouchable de la loi reste ce qu'elle est. La loi vient du tout autre, et le fait que le lieu de la loi soit vide, comme un tabernacle vide, ne signifie pas qu'on fait ce qu'on veut de la loi, qu'on y projette ce qu'on veut, ou qu'on la manipule. Elle n'est pas là, c'est-à-dire que son mode impératif n'est pas lié à la présence de son contenu, si on peut dire. Hein. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle est vide. Elle parle depuis un lieu qui n'est pas situable dans notre géographie, dans notre géométrie, dans notre topologie. Et elle est liée à l'écriture même. C'est-à-dire que, dans le petit récit dont nous parlions tout à l'heure, on s'aperçoit finalement que ce dont parle le récit, quand il décrit la transcendance inaccessible de la loi, c'est en même temps de la loi qu'il fait, lui, qu'il performe en quelque sorte, en tant que texte. Le texte produit la loi et produit ce non-lieu depuis lequel la loi commande, en quelque sorte. Et on pourrait, dans une démonstration un peu minutieuse, faire apparaître cette performance ou production de la loi à partir de l'écriture littéraire elle-même. Je crois que c'est avec ça que Kafka s'est sans cesse expliqué, sur un mode direct, comme dans les textes auxquels nous faisons allusion, ou sur un autre mode. Et dans le texte devant la loi, quand on le lit alors cette fois à l'intérieur du procès, on le voit déplier une sorte de dispositif d'interprétation infini. C'est un échange de type talmudique entre l'abbé et K, au sujet d'une écriture qui aurait précédé la loi, qui était avant la loi dans la Bible, et au sujet de laquelle des interprétations à l'infini s'échangent sur le statut de ce récit qui est devant la loi, qui est avant, devant la loi au sens de avant la loi. Mais les interprétations font la loi elle-même. Les interprétations ne sont pas des discours au sujet d'une loi préexistante, elles ont des effets de loi en quelque sorte.
La loi commence avec la famille, selon vous, pour Kafka, et aboutit à la femme.
Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle commence avec la famille ou si la famille commence avec la loi. Que serait la famille sans la loi?
Qui a désigné qui? Enfin, la loi a désigné Kafka, Kafka a désigné la loi.
Pour répondre à votre question, il faudrait que le nom de Kafka fût épelable ou pensable avant la loi ou hors de la loi. Hein. Or, un nom propre désignant un individu, ça n'a pas de sens hors du monde de la loi. Hein. C'est-à-dire que s'expliquer avec son nom propre, avoir un nom propre, appeler ou s'appeler par un nom propre, c'est déjà avoir affaire à la loi. Donc on ne peut pas dire que, selon votre formule, Kafka est désigné la loi, la loi est désignée Kafka. Je crois que ce que l'individu vivant, répondant au nom de Kafka, à ce avec quoi il s'est débattu tout le temps, c'est avec cet enchevêtrement, ce rapport enchevêtré entre la famille, le nom, la loi et l'individu porteur du nom.
Comment survient la loi juridique sur cet échiquier ?
Le juridique n'est qu'une des instances déterminées de la loi. Et justement, ce qui est fascinant dans les textes dont nous parlions tout à l'heure, notamment dans Devant la loi, c'est qu'à aucun moment il ne détermine la loi. Il ne dit de quelle loi il s'agit. Loi naturelle, loi morale, loi politique, c'est la loi. C'est ce qui fait qu'une loi est une loi. Alors ensuite, elle peut devenir, dans tel contexte, à telle époque, loi politique, loi juridique, loi morale, mais ce qui a tenu l'écriture de Kafka en mouvement, si on peut dire, c'est le rapport à la loi en général, à l'être loi de la loi. Alors évidemment, on peut, comme vous le savez, on a été justement tenté de le faire, mettre en rapport cette interminable explication avec la loi, avec le judaïsme de Kafka. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut, sans autre protocole, trancher ce débat. Il me semble que ce qui fait la singularité de Kafka, c'est ce croisement d'appartenance et de non-appartenance, qui lui a sans doute permis, par cette espèce de douce et non polémique non-appartenance au judaïsme, de recevoir de ce rapport étrange au judaïsme quelque chose de l'étrange familiarité avec la loi. Une familiarité sans familiarité avec la loi. Et certains diront, c'est ça qui précisément est judaïque chez lui, c'est cette non-appartenance au judaïsme, le fait d'avoir vécu sur le mode de l'étrangeté, de l'extériorité, de la marginalité, l'appartenance instable à une communauté, et que c'est ça qui est justement juste. Alors là, on entre dans une logique que je trouve paradoxale et redoutable, qui consiste à reconnaître les traits de l'essence judaïque précisément dans ça, dans son étrangeté par rapport à toute essentialité, dans son extériorité même, ou dans son insituabilité en quelque sorte. Alors par là, on pourra dire que Kafka est le plus essentiellement juif qu'un autre, mais on peut dire aussi bien le contraire. En tout cas, c'est ce tremblement du rapport au judaïsme qui me paraît aujourd'hui le plus provocant, si vous voulez, chez Kafka.
Comment pourriez-vous éclairer le mot « loi »
Bon, pour le formuler de manière économique et triviale, peut-être peut-on dire que la loi, c'est ce à quoi il n'est pas question d'échapper. Quand on définit un espace, quel qu'il soit, l'espace en tant que tel est limité par des repères ou par des frontières, des clôtures qui se donnent comme pouvant être transgressées ou franchies. La loi, en ce sens, ne peut pas occuper un espace. Et c'est pourquoi elle est, comme le disait Kafka dans le texte que nous évoquions tout à l'heure, elle est insituable, elle n'est pas présente dans un espace. La loi, on ne peut pas y échapper. C'est ce à quoi on ne peut pas y échapper, non seulement selon le schéma classique qui veut que transgresser une loi, c'est encore la confirmer, que aller au-delà de l'interdit, c'est répéter l'interdit. Ce n'est pas exactement ça que je pense. Quand je dis que la loi, c'est ce à quoi on ne peut pas échapper, c'est que si une loi est une loi, c'est-à-dire si elle commande catégoriquement, si son impératif est absolument catégorique, à ce moment-là, elle ne doit pas pouvoir être dérivée, expliquée par une généalogie, une genèse, une histoire. Et par conséquent, étant anhistorique, elle ne peut pas être réappropriable et on ne peut pas y accéder. Ou quand on accède à la loi, on accède à ses modes de révélation, à ses modes de présentation historique, mais à la loi elle-même, on n'accède pas. Donc, on ne peut pas y échapper parce qu'on ne peut pas y accéder, si la loi est la loi. Dès lors qu'on ne peut pas y accéder par une explication, une genèse, une histoire, à ce moment-là, la loi, ce qu'elle commande à travers tous les autres commandements qu'elle peut donner, c'est « ne viens pas jusqu'à moi, n'accède pas jusqu'à moi ». Et par conséquent, d'une certaine manière, « ignore-moi comme loi ». N'accède pas à ma demande au moment où tu m'obéis, en quelque sorte. Et cela crée une situation que certains appellent de double bind, une situation de double contrainte, qui est le rapport de folie à la loi. Le rapport vigilant à la loi, en quelque sorte, ne peut être qu'un rapport de folie. Un rapport dans lequel la loi est interdite, en quelque sorte. La loi, je dirais que la loi n'est pas l'interdit, elle est interdite elle-même. La loi est interdite. Et cette expérience de la loi comme interdit, comme ce qui est interdit, c'est la folie à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, vous me demandiez de répondre en somme de manière à la fois économique, formelle et triviale à la question du rapport à la loi, je dirais c'est ça, on ne peut pas y échapper, pas plus qu'à la folie. En général, on met la loi du côté de la raison. Ça, c'est comme ça que traditionnellement on comprend la loi, c'est ce qui est du côté de la rationalité, de l'organisation, du logos, de nomos, etc. Mais je dirais, pas du tout pour manier un paradoxe, que le rapport vigilant à la loi est du côté de la folie. Je crois que des textes comme le procès ou comme devant la loi sont l'explicitation évidemment discrète et non pédagogique et narrative, sous la forme de fiction narrative, de cette folie de l'être devant la loi. Être devant la loi, ça ne veut pas dire seulement qu'on ne peut pas entrer dans la loi, comme l'homme de la campagne qui veut, il arrive, n'est-ce pas, devant la porte de la loi pour y entrer. Il veut y entrer, n'est-ce pas ? Il veut entrer dans la loi. Il ne veut pas seulement accéder à la loi, il veut entrer dans elle. Eh bien, être devant la loi, ce n'est pas seulement ne pas pouvoir entrer dans la loi, c'est comparaître devant la loi, être le sujet de la loi, devant elle, hein, tout en étant, précisément parce qu'on est devant la loi, dans l'espace du hors-la-loi. Hein. Le sujet, que le sujet devant la loi soit en même temps, parce qu'il est devant la loi, hors-la-loi, hein, qu'il n'y arrive pas à y entrer, c'est ça la folie du rapport à la loi. Si vous considérez maintenant que le dispositif d'écriture de ce texte devant la loi est tel que l'expression devant la loi, selon qu'elle est située avant le texte, comme titre, ou bien comme incipit du texte, devant la loi se tient le gardien, etc., que cette expression devant la loi décrit en même temps l'opération par laquelle le texte intitulé devant la loi fait la loi. Fait la loi et, à partir de la loi qu'il fait, défie à l'infini les commandateurs, les exégètes, les prêtres, les interprètes, hein, qui vont eux-mêmes se trouver interminablement devant la loi, devant le texte, hein, qui aura fait la loi par un coup d'écriture qui est, je crois, le très doux et très modeste, très discret coup de force de Kafka. Hein, c'est-à-dire qu'il a, par le fait, par ce qu'on peut appeler son œuvre, démontrer comment l'écriture pouvait faire la loi. Comment une écriture qui s'explique avec la loi, qui n'est qu'une interprétation talmudique interminable du phénomène de la loi, elle-même pouvait se signer, en quelque sorte, et dans la structure paradoxale de la signature, faire la loi à son tour. Comment un texte peut devenir loi. Et je crois que si toute littérature, loin d'être, comme on l'a dit si souvent, simple jeu ou transgression de la loi, ou ébat à l'écart de la loi, si toute écriture, toute littérature est essentiellement une explication avec la loi, hein, ne se conçoit pas sans ce rapport à la loi, je dirais qu'à cet égard-là, l'écriture de Kafka est exemplaire. Il y a plusieurs manières d'être exemplaire, mais c'est une explication exemplaire avec ce qu'on appelle la loi aujourd'hui.
Les trois juges d'Israël sont entrés. Entre ces deux gardes hiératiques, Eichmann s'est dressé déférent, correct, en son costume gris, ses yeux clairs protégés par ses lunettes d'écaille. Devant lui, ce sont des supérieurs en quelque sorte, et Eichmann se retrouve à l'aise devant son échelle hiérarchique. Il répond d'une voix pleine à la question, et c'est la première fois que nous entendrons le son de ses paroles. Êtes-vous Adolf Eichmann ?
Ata Adolf, non shall Adolf Karl Eichmann ?
Again. Jawohl.
Les juges Landau, Alevi et Ravet le regardent pensifs. Ces juges que l'avocat demandé par Eichmann et payé par l'État d'Israël, Maître Servatius, s'empresse de récuser, craignant, dit-il, de leur part de la partialité.
And one to Ehib.
Ken.
I mean, when לבקש רשות מבית הדין להתיר לי להשמיע השגה.
Bevor der Angeklagte die Frage beantwortet, die an ihn gestellt werden wird, ob er sich schuldig bekennt oder nicht, habe ich zwei Einwendungen zu erheben. Sie betreffen die Besorgnis der Befangenheit der Richter und die Unzuständigkeit des Gerichts. Ich beantrage, das Gericht...
Sie werden ersucht, langsam zu sprechen, um die Übersetzung zu ermöglichen.
Ich beantrage, das Gericht wolle prüfen, ob Gründe vorliegen, durch die Entrichter von der Ausführung seines Amtes ausgeschlossen werden.
La loi est une chose qu'on ne peut pas atteindre, n'est-ce pas? Non, devant la loi, j'espère que vous le connaissez, n'est-ce pas? Alors, c'est la loi du judaïsme. Et il le transforme quand il le situe, la scène, il le situe dans la cathédrale de Prague. Alors, la loi, c'est une chose qu'il faut retrouver. C'est intéressant de voir que c'était Origène, Kafka n'a sûrement pas su ça, que c'était Origène qui dit presque la même chose comme Kafka, comme une légende juive, que nous tous, on dit les juifs au temps d'Origène, le troisième siècle, n'est-ce pas, le père d'Église, que tous nous recevons une clé pour ouvrir, pour venir à la loi. Mais nous ne recevons pas la vraie clé. Il faut chercher la vraie clé. C'est une légende juive que Kafka n'a pas connue.
Jérusalem, David Flusser.
Pour lui, de retrouver sa réalité juive, la loi qui est pour les chrétiens une chose problématique, pour lui, c'était l'idéal de retrouver vraiment la loi, ça veut dire la loi de Moïse. Ça, ce qu'il a voulu. Mais il a senti, il n'a pas su, comme tout le monde qui lit Kafka le connaît, n'est-ce pas, qu'il n'a pas eu l'audace d'y entrer, n'est-ce pas, qu'il a toujours demandé, après ça, à la fin. Et il a appris avant de mourir que c'était l'entrée était faite pour lui, pour Kafka. Alors c'était sa tragédie, sa tragédie personnelle, sa tragédie sociale, sa tragédie comme un juif, qu'il n'a pas pu retrouver par son identité, c'est trop moderne de le dire, je n'aime pas ça. Mais qu'il était dans une situation, on pourrait dire, paradigmatique pour l'homme moderne. C'est pour cela qu'on pourrait dire qu'il était un prophète, une expression de l'homme moderne. Mais il était, et c'est pour cela, il est si intéressant pour nous. Et la question est, si nous pouvons vraiment trouver l'entrée à notre loi, à notre grâce qui se trouve dans la loi, d'après son opinion, nous le voyons, ou si nous pouvons retourner, ou si nous ne pouvons pas retourner comme c'était dans l'Odyssée, n'est-ce pas? Alors ça c'est une question. Au commencement, il a pensé qu'on ne peut pas trouver la voie parce que il y a une impossibilité qui dépend de la réalité du monde. Et à la fin, si je ne me trompe pas, il a trouvé que c'était l'homme moderne qui est coupable parce qu'il est devenu trop homme et c'est pour cela qu'il n'a pas le sentiment pour les choses qui se trouvent dans les cieux, pour le dire ainsi, n'est-ce pas ça, il me semble. Ça, c'est une question.
Est-ce que l'idée d'une théologie négative était commune à Prague?
Je me demande, dans le temps de Kafka, je ne sais pas si ça a existé, mais il y a aujourd'hui sûrement des choses de la théologie négative qui se trouvent. Mais chez les théologues de Prague, naturellement, je ne sais pas s'il a connu. Je me demande si nous avons raison si nous voyons chez Kafka une théologie négative. Mais il a voulu avoir une théologie positive. Ça, il a toujours voulu. Si vous voulez décrire Kafka comme un théologue, il a voulu connaître Dieu. Il a pensé que c'est impossible, qu'on ne sait rien, qu'on ne peut pas savoir, etc. Mais il n'était pas heureux de dire Dieu est mort, ou quelque chose comme ça, ou que ça il n'a pas voulu dire. Il a vraiment cherché. Au commencement, il n'a pas trouvé, pour son sort personnel, je pense aussi pour des causes de ses amours, de ses non-amours, n'est-ce pas, qu'il a. Si quelqu'un est désespéré, ce n'est pas une théologie négative. Si quelqu'un est désespéré, qu'il se sent faible, qu'il ne peut pas travailler, qu'il pense que seulement s'il écrit, alors il s'accroche à son œuvre, n'est-ce pas? Ce qu'il cherche, qu'il veut savoir, qu'il veut vivre, c'est pour lui, ce n'était pas une théologie négative. Je ne sais pas si c'est vraiment une théologie négative. C'est possible que le mot a aujourd'hui un autre sens que j'ai pensé. Ça, c'est une question. Mais si vous voulez, vous pouvez dire alors, vous voyez, que c'est une situation kafkaesque. Bon, alors vraiment, Kafka est un représentant de la théologie négative. Il nous aide à comprendre cette situation tragique, cet abîme qui se trouve dans l'homme, entre l'éternel, entre l'universel, et où l'homme qui désespère trouve d'une façon dialectique dans son désespoir, l'espoir de ce désespoir. Bon. Que peux-je dire? Est-ce que je peux changer mon temps? Non. Alors, vous voyez, est-ce que c'était beau? Ça, la beauté dans la laideur dans la beauté, les rhinocéros, les SA, les SS, le Wirtschaftswunder, les bombes atomiques. Vive Kafka.
Makom ze bo ani omed lifnechem shoftei Israel lelamed kategoria al Adolf Eichmann en ani omed yichidi imadi nitzavim kan בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית, ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים.
Ce fut même le plus terrible qu'ait jamais eu à prononcer au cours de l'histoire un procureur général. Une chape de plomb s'abat sur la salle lorsque l'interminable exposé du supplice du peuple juif étire ses horreurs. Des femmes pleurent. Des faits impossibles à dire obligent des personnes à sortir. je regarde Eichmann. Calme et froid, il classe ses dossiers. Quelque temps après, s'abattront comme une litanie incroyable en réponse aux 15 chefs d'accusation, ses dénégations. Nicht schuldig, non coupable.
Bekennen Sie sich zum siebten Anklagepunkt, schuldig oder nicht schuldig?
Im Sinn der Anklage nicht schuldig.
Bekennen Sie sich zum achten Anklagepunkt, schuldig oder nicht schuldig?
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Depuis plus d'un mois, les témoins défilent. Une cinquantaine parmi les 500 000 qui pourraient venir avec autant de raisons à la barre. À certains moments, l'horreur et le sang déferlent dans une salle qui, professionnellement blasée, est néanmoins terrifiée. Cette mer de souffrance assiège et semble s'arrêter net devant la cage, où toujours imperturbable, le bureaucrate assassin responsable direct de ces tourments qui dépassent l'imagination, et dont nul d'entre nous, il faut bien le dire, en pourra transcrire en fait le quart seulement. Adolf Eichmann écrit, convulse des papiers toujours.
Vous êtes à l'écoute de France Culture. Journée Franz Kafka à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Posloucháte Radio France Culture. Tato emise je věnovaná Franzi Kafkovi k stému výročí jeho narození.
C'était le deuxième de 9 épisodes de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.